Cours d'économie.
Nous ferons un tour ce soir au domaine agro-industriel présidentiel de l'Ansele. Quel est le niveau de production du Daypen à ce jour? Restez avec nous pour en savoir plus. Le prix des minerais, le coltan et la cassiterite a baissé à Kalemi. Il entraîne dans sa chute le pouvoir d'achat dans cette ville du Katanga. Comptoirs, magasins et boutiques ne sont plus fréquentés comme d'habitude. Nous relèverons aussi ce soir l'importance de la route nationale numéro 5 qui relie la ville de Lubumbashi à celle d'Uvira, route dont les travaux de réhabilitation sont lancés depuis ce jeudi. Bonsoir et bienvenue à tous. Direction le domaine agro-industriel présidentiel de l'Ansele Daypen. La nouvelle ferme moderne dénommée Nouveau Daypen a l'ambition de produire 90 000 œufs par jour, mais elle fait face à deux grands défis, le réseau de distribution et le prix qui jusque-là n'est pas encore accessible aux Congolais moyens. Nadine Fulantimba nous en dit plus.
Le nouveau Daypen est le fruit de partenariat de 5 ans entre le gouvernement de la RDC et le groupe israélien LR Group. Au terme de ce partenariat, cette ferme doit produire 900 000 œufs par jour et actuellement la production est à 30 000 œufs par jour. La ferme compte à ses jours 34 000 poules. Eyal Lelouch, responsable business management des LR Group, explique la chaîne de production.
Il y a une ferme qui est en réhabilitation actuellement, qui est la ferme des couvoirs, des couveuses. L'idée, c'est d'acheter des poules, des œufs fécondés, pour encore une fois diminuer le prix au fur et à mesure de production des poulets. Et ensuite, après la production, après 42 jours, les poulets viennent ici. On produit aujourd'hui, dans l'abattoir, 4 tonnes de poulets par jour. La capacité de cet abattoir est de 900 têtes par heure.
Un constat est fait, le produit des Daypen sont quasiment invisibles sur le marché quinois. Un marché inondé constamment par de produits frais et surgelés qui y sont injectés en quantité industrielle, de poulets abattus et toutes ses dérivées, des chinchards surgelés ainsi que toutes sortes de viandes du gros bétail venant de fermes périphériques ou importées par les multinationales. Mais qu'est-ce qui explique ce manque de visibilité? Et Al Lelouch répond.
Vous savez qu'un poulet mange 4 kilos de grains par dans son cycle de vie. Sachant qu'ici, on paye le sac de riz à peu près à $600 la tonne. 80% du prix du poulet, c'est en fait qu'il a mangé. Et nous, on va se battre vraiment pour diminuer au fur et à mesure les coûts, notamment avec la ferme des couveuses, pour pouvoir avoir un œuf fécondé ou pas un poussin. Et deuxièmement, avec la construction de la provenderie, qui permettra également de diminuer les coûts.
Dans les autres réalisations, il faut compter le projet pilote des maïs de 1500 tonnes, dont l'objectif est de produire 6000 plus tard. Il y a aussi la porcherie qui est en phase d'expérimentation. 70 porcs sont aussi élevés pour produire 1300 tonnes de viande de porc.
Merci Nadine. Restez avec nous encore quelques minutes pour nous parler en plus long du Daypen.
Daypen est une abréviation du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ansele. Le domaine de l'Ansele est un parc agro-industriel conçu pour encourager l'activité agricole. Il est situé à quelques dizaines de minutes de l'aéroport d'Njili, dans la commune rurale de l'Ansele à Kinshasa, sous la route des Kikwit et Kenge à proximité du fleuve Congo. C'est en 1966, le feu président Mobutu avait ouvert Daypen. Le domaine se développa fortement à la fin des années 1960 et au début des années 70, principalement comme domaine présidentiel moderne, comportant une imposante pagode chinoise et la luxueuse maison de Mobutu. Une bonne douzaine de cadres européens, dont de nombreux Belges et Chinois, furent appelés vers cette période pour développer des activités modernes d'élevage et d'agriculture. Le domaine regorgeait également des fermes pour la production animale. Une ferme porcine, deux fermes avicoles chères, quatre fermes avicoles pondeuse, une ferme laitière, une production agricole font partie de cet espace de production. C'est en 1991, après les pillages, que ce domaine a été abandonné, puis occupé en 1997 par l'équipe gouvernement de Laurent Désiré Kabila et ensuite utilisé comme lot d'habitation. En 2009, la BAD finance la reprise des activités de la ferme de l'Ansele à hauteur de 8 millions de dollars dans le cadre de sa réponse crise alimentaire en Afrique. Quelques temps après, le gouvernement Matata a décidé de relancer finalement Taipen en partenariat avec le groupe israélien LR Group. D'abord, deux contrats ont été signés avec le groupe. Le premier pour l'exploitation et la gestion du Taipen pour une durée de 5 ans et le second comme un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour la valorisation, la réhabilitation et le développement de cette ferme pour 4 ans. Selon les termes de contrat, le projet devra être exécuté en deux phases. La première concerne la réhabilitation des fermes agricoles et des infrastructures connexes, abattoirs, chambres froides, porcheries et l'implantation d'unités d'aliments pour bétail, la remise en état des chaînes de froid du système d'approvisionnement en eau et en électricité. La seconde phase vise le développement des activités de grande culture, la réhabilitation des entrepôts et silos de stockage et le développement de l'aquaculture intensive. Le nouveau Taipen a l'ambition de produire annuellement 300 tonnes de poissons, 1200 tonnes de fruits, 1200 tonnes d'aliments pour bétail et 25 000 pièces d'œufs. Elle emploie aujourd'hui 400 personnels congolais et 20 expatriés et elle compte atteindre 1000 employés congolais. À Manono, dans le Katanga, les habitants se plaignent de la baisse de leur pouvoir d'achat à cause de la chute des prix des minerais, le coltan et la cassitérite. De 6 000 francs congolais le kilo il y a un mois, le prix de ces minerais vient de passer à 4 500 francs congolais, comme nous l'explique Expedi Mwambamubi.
De 6 000 francs à 4 500 francs le kilo de cassitérite, il n'en fallait pas plus pour que cette baisse de prix ne décourage les creuseurs artisanaux de Manono. C'est le constat fait par l'administrateur de territoire, François Kazembe.
Les creusés ne sont plus nombreux. Il y a maintenant rareté des minerais. Quand il y a baisse des prix, sur le plan international, sur le plan mondial, cette baisse des prix-là fait que ça puisse décourager les gens à faire les minerais.
Il n'y a pas que la diminution du nombre de creuseurs artisanaux. La chute du cours de la cassitérite sur le marché international a entraîné également la fermeture de plusieurs comptoirs d'achat. Et puis, parmi les quelques comptoirs qui résistent encore, certains n'acceptent plus que les minerais mélangés, comme l'atteste Dieu merci, journaliste de la radio-télé Kaoulou Minono.
Le premier ministre, c'est-à-dire, on voit la capacité de mélanger au coltan. Quand vous séparez, ils n'achètent pas ça. Comme les négociants et les creusers ne savent pas où aller avec leurs minerais, ils sont obligés de les faire coltan.
Dans les magasins et boutiques de Manono, au marché central et même dans les foyers, l'ambiance est également morose.
Par là, nous pouvons bien parler d'une diminution que ça du pouvoir d'achat dans le marché local. Il y a des marchandises qui prennent dans leur magasin, ne sortent plus, parce qu'il n'y a plus la circulation de l'argent. Cette même compétence touche aussi l'éducation. Dans certaines écoles, comme les enfants du primaire, passent les examens. Il faut voir comment les enfants doivent être chassés à cause de la prime.
Notez que la chute des prix de la cassitérite et du coltan a toutefois des effets bénéfiques sur l'agriculture à Manono, avec le retour dans ce secteur de plusieurs jeunes, hier encore, attirés par l'exploitation artisanale des minerais. Kalemi, Expedi Mwambamubi pour Écho d'économie.
Écho d'économie. Je vous l'ai annoncé, l'entreprise Swanepoel a lancé hier jeudi les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5. Ces travaux visent la réouverture de la voie routière reliant la ville de Lubumbashi dans le Katanga à celle d'Uvira au sud Kivu pour atteindre les pays frontaliers de l'est de la RDC. François-Xavier Mibé nous parle de l'intérêt économique que revêt cette route dans la région.
Les travaux lancés sont partis du quartier Matteo de Kalemie avec l'objectif d'atteindre la localité de Kambou à environ 150 km, un tronçon conduisant au territoire de Pweto en passant par Moba. Les travaux consistent à terrasser la voie jusqu'à faire une jonction de l'endroit que les Chinois de l'entreprise Sino Hydro se sont arrêtés sur le même axe routier. Le projet Kasomeno-Kambou-Kambou-Kalemie sur la RN5 a été subdivisé en plusieurs entreprises sélectionnées par la Banque mondiale. Le lot numéro 1 a été exécuté par Jain Jaski, partant de Kasomeno à Pweto, l'entreprise Sino Hydro pour le deuxième lot, qui couvre Pweto à Kambou, et l'entreprise Swanepoel, qui réalise le troisième lot de Kalemie à Kambou avec le traitement des points critiques sur la voie. Ce que fait observer l'ingénieur Mathieu Mwanza.
Ce matin, depuis 6h30, nous avions démarré les travaux de terrassement par les dégagements de l'emprise et les réglages de la plateforme.
Voilà, vous voulez me dire que toutes les machines sont maintenant disponibles?
Toutes les machines sont disponibles. Nous avons des doseurs, nous avons des niveleuses, nous avons des pelles, nous avons des tractopelles, nous avons des camions, nous avons des bétonnières, tout ce qu'il faut pour les travaux de génie civil et des travaux publics.
L'ouverture de la RN5 au départ de Lubumbashi jusqu'à Uvira pour atteindre les pays frontaliers comme le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda ne doit pas non seulement permettre les contacts entre les populations dans la région, mais aussi offrir l'opportunité aux hommes d'affaires de réaliser leurs activités commerciales, le transport des marchandises étant beaucoup facilité entre les pays de la région. L'ingénieur Mathieu Mwanza a fait savoir aussi que la main-d'œuvre doit être assurée par des ouvriers locaux et ceux des villages environnant les lieux de travaux. Cette main-d'œuvre va devoir participer à la réalisation des travaux de génie civil et des travaux publics pendant 15 mois. Il faut enfin noter que la Banque mondiale, en partenariat avec le Fonds d'entretien routier, finance le projet dont les coûts n'ont pas été révélés. Pour Écho d'économie, François-Xavier Mibé, Radio Capi.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Léonard Moulamba, mise en onde par Alain Goy et suivie par vous. Merci.